Salut à toutes et à tous. Au sommaire de cet épisode, nous aurons In the Hunt, Cooking Fighter Ho, Infernal Runner, Fire Woman Mato Igumi première partie, et nous terminerons avec un grand dossier sur l'intellivision de Mattel. Bienvenue sur Rétrovision. Voici un jeu pour les fans de Metal Slug et Gunforce 2. En effet, car vous ne le savez peut-être pas, mais l'équipe qui a conçu Gunforce 2 et la série des Metal Slug avait créé un jeu avant cela, In the Hunt, développé par IREM et sorti en arcade en avril 1993. Nous nous trouvons donc devant un shoot horizontal dans la lignée des titres que l'équipe concevra et qui les fera mondialement connaître. La première chose qui frappe dans ce jeu, mis à part des musiques et des graphismes somptueux, c'est le type de machine qui a été choisi. En effet, rares sont les jeux de shoot où l'on incarne un sous-marin, et il est encore plus rare qu'il soit d'une qualité telle que celui-ci. Cependant, il est à noter que IREM avait déjà sorti un jeu de shoot utilisant un sous-marin dans le jeu Scoon, sorti sur NES en 1986 au Japon. In the Hunt comporte 6 niveaux aux environnements complètement différents. L'histoire est un peu plus banale, une organisation nommée DAS, The Dark Energy Society, essaye de faire fondre les calottes glaciaires avec un engin magnétique particulièrement redoutable, afin de noyer le monde et le plonger dans le chaos le plus total. Bien que le DAS ait réussi, et malgré une quasi-disparition de la population mondiale, certains survivants ont décidé de mettre à profit leur capacité pour concevoir une arme prête à en découdre avec l'organisation DAS qui terrifie le monde, du moins ce qu'il en reste. Et c'est à vous qu'incombe la tâche ingrate de sauver le monde, si ce n'est pas malheureux. Bref, pour ce faire, vous aurez tout un tas d'armes plus utiles les uns que les autres, et de base, votre vaisseau est équipé de deux types d'armes, une pour tirer horizontalement des torpilles d'une manière générale, ou verticalement, que ce soit sous l'eau ou à la surface, car vos ennemis ne seront pas uniquement dans l'eau. Cela aurait été trop facile, me direz-vous. Graphiquement, le jeu est superbe. Animation, décor... Pour l'époque, on peut dire qu'il est certainement l'un des plus beaux de l'année 93, n'en déplaise à certains. L'environnement sonore aussi est remarquable, même s'il est en deçà de la qualité graphique. Pour finir, In the Hunt est assez difficile. En même temps, c'est le lot de tout jeu d'arcade. Il y eut des conversions sur PlayStation et Saturn en 1995 au Japon, et même une version PC sortie après 96. Depuis la moitié des années 90, les éditeurs misent sur les franchises déjà connues pour rentabiliser au maximum les investissements. Les titres qui se veulent originaux dans leur concept disposent généralement d'un budget moindre et d'une couverture marketing quasi nulle pour éviter la casse en cas de flop. Cooking Fighter Ho peut très bien se ranger dans cette catégorie. Dans ce jeu, axé sur la nourriture, l'histoire tourne autour d'un protagoniste solitaire, Ho, qui devra faire face au maléfique Hajimaru et ses sbires, ainsi que divers personnages rencontrés lors de ses pérégrinations, chaque rencontre débouchant sur un combat culinaire. Le mode histoire se déroule en deux phases. La première, composée d'une succession d'images fixes et de textes, sert avant tout au déroulement de l'histoire et n'est qu'un blabla interminable avec des illustrations au design pas franchement soigné. La seconde phase, quant à elle, est le combat à proprement parler. Celui-ci se déroule dans une arène octogonale où sont éparpillés légumes et animaux. Le but étant d'assommer un animal pour le transformer en plat succulent. Une pression sur le bouton cercle ouvrira un petit menu de sélection de recettes. Une rotation du pad ou du stick analogique vous permettra de choisir la recette voulue, de la plus simple à la plus complexe, cette dernière rapportant plus de points. Mais pendant ce laps de temps où vous êtes vulnérable, votre adversaire pourra vous frapper pour vous empêcher de confectionner votre plat. D'ailleurs, si ce dernier arrive à vous assommer, il pourra dérober vos plats déjà confectionnés que vous pourrez lui reprendre en faisant de même. On touche au principal point de frustration de cette phase, l'ordinateur passant le plus clair de son temps à vous frapper pour vous immobiliser et voler vos plats plutôt que de faire les siens. Ensuite, dès que tous les ingrédients auront été utilisés, le combat s'achève et les opposants seront départagés par un décompte de points intégrant le nombre de plats, leur composition et leur complexité. Ce mode est également jouable à deux joueurs, mais limité dans l'espace de jeu par le fait que les deux protagonistes ne peuvent être hors écran. Le soft propose en plus de tout cela une petite bible des plats. Une fois que vous aurez exécuté un plat dans le mode histoire, vous pourrez en retrouver un descriptif dans le lexique. Pratique pour les amateurs de cuisine asiatique, moins pour les non-japanophones. Cooking Fighter Ho propose donc un concept assez intéressant, même si certains resteront dubitatifs. En effet, mélanger comme ça bouffe et baston, c'est quand même mieux de faire les choses dans l'ordre. En dehors de ce postulat de base, il faut tout de même admettre que l'originalité ne fait pas tout. Après l'effet de surprise et quelques combats, le concept s'essouffle vite, même à deux joueurs. On sent que le jeu a été fait à la va-vite, alors qu'il y avait pourtant du potentiel. La seule et unique arène du jeu, aussi que le design très pauvre des illustrations du mode histoire, nous le démontre bien. Les phases de combat proposent toutefois des graphismes en mode SD bien sympathiques et la maniabilité est tout à fait correcte. Par contre, la bande-son reste assez anecdotique. En un mot commençant, Cooking Fighter Ho fait partie de ces jeux partant d'une bonne idée, mais malheureusement pas assez développée. Un titre à essayer à défaut de le posséder. Nous voici sur Amstrad CPC en 1985 dans un jeu qui pourrait tout à fait avoir le droit au titre de Survival Horror. Car oui, en effet, dans ce Infernal Runner, vous devrez survivre le plus longtemps possible dans une pléiade d'écrans plus dangereux les uns que les autres. Nous pouvons dire que pour 1985, Loriciel a vraiment sorti un jeu super sombre. Vous êtes un petit personnage sans nom qui devra récupérer des clés pour ouvrir des coffres, ainsi que des aliments pour faire remonter la ligne de vie si vous ne voulez pas voir votre personnage mourir de faim. Et il faudra vous armer d'énormément de patience pour essayer, un jour peut-être, de le terminer. Les graphismes sont simples, mais on reconnaît assez aisément les éléments qui sont face à nous. Le personnage peut courir, sauter, bref, tout ce qu'il faut pour éviter les pièges et les monstres qui peuplent cette immense maison. Ce jeu, comme vous pouvez vous en douter, est extrêmement difficile. Il vous fera arracher des grosses touffes de cheveux, voire même aller jusqu'à la destruction du joystick. A noter que le jeu est d'abord sorti sur Commodore 64 et qu'il a été porté sur Amstrad CPC par Eric Chahi, le créateur d'Another World. La musique, quant à elle, est composée par Michel Winogradov, qui n'est autre qu'un des musiciens du Grand Orchestre du Splendid. Nous le savons tous, la PC FX est une console qui fut un échec au Japon, la privant ainsi d'une distribution en Occident. Son catalogue de jeux au style purement japonais étant également un frein à cette distribution. Il ne faut pas pour autant en conclure que les jeux de cette machine soient inintéressants, bien au contraire. Prenons le cas de Fire Woman Mato Igumi. Bien que ce jeu soit à classer dans les simulations de drague, celui-ci s'avère bien différent des autres jeux du genre. Si les dating sims se présentent généralement sous la forme d'un digital comics visual novel, Fire Woman s'apparente plutôt à un RPG dont il en reprend de nombreux éléments. Vous incarnez un jeune étudiant intégrant le lycée Shirozagi. Après vous être entretenu avec la directrice, phase où vous personnaliserez l'identité de votre personnage, vous partez à la découverte de votre nouvel établissement. Et c'est là que les problèmes commencent. Vous vous retrouvez rapidement mêlé à une rixe où vous serez pris à partie par trois étudiants. Malgré votre bonne volonté, votre personnage se retrouve vite à terre. Mais heureusement, un trio de jeunes filles vient à la rescousse et règle le compte de ces troubles faits. Ces trois filles, Ryuko, Sayaka et Seta, forment le Mato Igumi, brigade chargée de faire régner l'ordre au sein du lycée. Malgré votre cuisante défaite, celles-ci ont détecté un grand potentiel en vous et vous forceront à intégrer leur équipe. C'est ainsi que vous passerez une année scolaire à vous assurer qu'il n'y ait aucun problème dans l'établissement. Chaque journée débutera à la fin des cours, à l'infirmerie, le point de ralliement du Mato Igumi. Vous aurez le contrôle de votre personnage pendant toute la durée des activités extrascolaires. Vous pourrez soit déambuler dans le lycée, soit faire partie d'un ou plusieurs clubs. Si vous vous baladez dans le lycée, vous rencontrerez divers étudiants avec qui vous pourrez bavarder. Il n'est d'ailleurs pas rare d'assister à des petites scénettes où vous devrez arbitrer un conflit entre deux protagonistes. Vous serez d'ailleurs équipé d'un GPS, le GAL Positioning System, vous permettant de savoir en temps réel où se situent les principaux protagonistes du jeu et si celles-ci sont dans une situation délicate ou non. Ainsi, si une fille a des problèmes, vous pourrez intervenir rapidement. C'est généralement dans ce cas-là où vous devrez combattre. Les filles, avec qui vous pourrez flirter justement, sont au nombre de 11. Il y a évidemment les membres du Mato Igumi, mais également d'autres filles faisant partie de différents clubs. Pour gagner leur estime, vous devrez discuter souvent avec elles, participer aux activités de leur club, leur offrir un cadeau pour leur anniversaire ou les aider quand celles-ci ont des problèmes. Vous pourrez aussi leur proposer de les accompagner quand vous quitterez le lycée. Elles feront de même quand la confiance commencera à s'installer. Pour savoir où en sont vos relations avec une fille, vous devrez discuter avec Otaku Joe, un gars qui sait tout sur les étudiantes du lycée. Celui-ci vous montrera des graphiques montrant l'évolution de vos relations avec chaque protagoniste. Il vous sera tout à fait possible de draguer plusieurs filles simultanément. Celle-ci n'étant pas en compétition, il n'y aura aucune jalousie, mais vous devrez choisir l'une d'elles à la fin du jeu pour pouvoir voir sa séquence de fin dédiée. Voilà pour la partie drague qui présentait la première partie de cette chronique. Dans la prochaine émission, nous aborderons la partie la plus intéressante du jeu, c'est-à-dire la participation au club ainsi que les phases de combat.
Entrez dans un nouveau monde, le monde fascinant des jeux vidéo Intellivision. Intellivision, jouez et voyez. Voici Star Strike d'Intellivision, la bataille de l'espace que vous rêviez de vivre. Combattez les envahisseurs dans un vertigineux champ de bataille et tirez au but. Mais si vous échouez, la planète Terre sera détruite. Les jeux vidéo d'un nouveau monde, Intellivision. Il y a 35 cassettes de jeux vidéo Intellivision.
La fin des années 70 a vu l'émergence du jeu vidéo grand public. Et Atari, dont le succès de sa console Atari 2600 n'est plus à démontrer, fait désormais beaucoup d'envieux. Certains constructeurs ont bien tenté leur chance pour détrôner le roi, mais sans succès. Ainsi, Bally avec son Astrocade, RCA avec sa Studio 2 et Fairchild avec sa Channel F s'y sont cassés les dents. Mattel, fabricant de jouets célèbres pour avoir commercialisé la poupée Barbie, compte bien se lancer dans ce créneau, mais veille à tâter le terrain au préalable. La société lance en 1978 sa division Mattel Electronics et commence à travailler sur une console de salon. Mais au préalable, la firme commercialise des jeux électroniques portables pour mesurer l'accueil du public. Ce dernier étant satisfaisant, un test marketing est effectué à Fresno, en Californie, en 1979.
What you are about to see will change your mind about television. Intellivision. The intelligent television. Computer video games with a brain.
A space battle. You are in control. Three fighter squadrons against the alien forces. Put them on radar. Engage your fighters. Activate lasers. You are there. The ball is yours. Move it downfield. The defense is pressing. You're in the goal area. You shoot. It's a goal. You are there. The classroom at home. Adding up is fun. Subtract and multiply. Right again. Follow the gorilla. Uh-oh. You'll have to try harder. You are there. Behind the wheel, the race is on. Set your car up for the corners. Faster. Faster. Hit the brakes. You are there.
Intellivision. So intelligent, no game plays the same way twice. Intellivision. The most exciting family entertainment system since television itself.
See Intellivision games being demonstrated at selected outlets of these stores.
La console, baptisée Intellivision, contraction de Intelligent Television, est disponible avec un catalogue de seulement 4 jeux. La commercialisation de la machine s'étendra au reste des États-Unis l'année suivante pour un prix de vente de $299. La machine attire ensuite la curiosité. Avec son design imitation bois, ses manettes encastrées aux multiples touches et son disque bidirectionnel aux antipodes du design des manettes de l'Atari 2600, et son processeur 16 bits offrant des jeux bien plus étoffés que ceux de la concurrence, la console trouve rapidement son public.
La console Intellivision vous lance un défi.
Ça, c'est la cassette mare à grenouilles. Bah, mangez le maximum d'insectes. Attention, la nuit tombe, vos réflexes baissent. Bah.
Et voilà la super cassette tennis. Un service boulé, un retour canon, lob, smash, hallucinant de vérité.
Jeux vidéo Intellivision, venez le comparer aux autres jeux vidéo. Intellivision de Mattel Electronics, l'intelligence est de la partie.
Bien que le succès soit au rendez-vous, les ennuis commencent pour Mattel. La société Maniavox, créatrice de la console Odyssey, l'attaque pour plagiat comme elle le fit avant avec Atari pour sa VCS. Mattel devra donc lui verser des redevances qui se montent à plusieurs millions de dollars. Cela n'empêche pourtant pas la console de continuer à se vendre pour atteindre un chiffre de 2 millions d'unités vendues à la fin de l'année 1982. Pour étoffer son catalogue de jeux encore mince, Mattel décide de former son propre noyau de développeurs. Tenu à l'anonymat pour éviter toute récupération par la concurrence, ce groupe sera simplement connu sous le nom de Blue Sky Rangers. Au plus fort de son activité, le groupe comptera aux alentours de 200 programmeurs, dont certains ayant été embauchés en France et à Taïwan. On leur devra notamment le jeu Astromash, l'une des meilleures ventes de l'Intellivision. Durant sa carrière, l'Intellivision connaîtra quelques extensions. L'Intellivoice, par exemple, est un module vocal permettant d'ajouter des voix de synthèse, mais la capacité mémoire ridicule de la console offre des digitalisations sonores de piètre qualité. L'Intellivision Keyboard devait transformer l'Intellivision en ordinateur familial via l'adjonction d'un clavier et d'une extension mémoire. Annoncé au lancement de la console, ce périphérique se fit tellement attendre qu'il faudra un procès d'une association de consommateurs pour que Mattel se décide enfin à la commercialiser. Le Playcable Module est sans doute le périphérique le plus intéressant. Branché sur le réseau câblé de la télévision, celui-ci permettait de télécharger des jeux. Et oui, la dématérialisation existait déjà il y a 30 ans. Toutefois, avec la multiplication des nouvelles chaînes de télévision, le débit du réseau s'est vite retrouvé engorgé et le service Playcable s'arrêtera en 1983 après seulement 2 ans d'activité. L'année 1983 s'annonce difficile pour Mattel. Malgré les bonnes ventes de la console, Atari reste le leader incontesté. Pire encore, un nouveau concurrent est entré dans la danse l'année précédente, la ColecoVision, machine plus puissante que l'Intellivision. Pour contrer cela, Mattel sort l'Intellivision 2, version plus compacte de sa console, vendue $150 avec la possibilité d'avoir enfin des manettes détachables.
I know Intellivision is a great system, but I want to make it better.
Well, we're already adding a computer keyboard
and a music synthesizer
and a system changer to play more home video games than any other system.
But the only thing it doesn't have is its own TV. Buy any Intellivision master component, and Mattel Electronics will send you this 13-inch color TV for only $75.
I'm glad I thought of that.
L'extension System Changer Module, vendue à la même période, permet de jouer au jeu de l'Atari 2600 sur l'Intellivision. Néanmoins, les ventes baissent sérieusement. L'Intellivision 3 est en chantier. Proposant une meilleure résolution d'écran, du son sur 6 canaux et des manettes sans fil, celui-ci ne verra jamais le jour. Tout comme l'Intellivision 4 d'ailleurs, qui devait proposer un modem pour jouer en ligne et des graphismes 3D. Mattel, comme ses concurrents, subira de plein fouet le krach de 1983. Les pertes de la branche électronique se comptent en millions de dollars. Mattel ferme la division et vend ses actifs ainsi que ses stocks à d'anciens employés de cette division. Les nouveaux détenteurs des droits fonderont Intellivision Corporation, rebaptisée INTV Corp. Ceux-ci écouleront les stocks restants de la machine en la vendant par correspondance ou chez certains revendeurs et développeront des jeux jusqu'en 1991, date de fermeture de INTV Corp.